du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à la Capelle Marival, 97.7.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. Beaucoup d'agitation, alors les gens ne voient pas les coulisses de la radio. Bonjour David Tanchard.
Bonjour Philippe. Oui, il vaut mieux pas parce qu'il y a un peu d'agitation, effectivement.
Non, mais de la
mais
bonne agitation.
Je suis à l'heure. Oui, je suis arrivé un peu rapidement, non, mais non, ça y est.
Non, mais vous êtes là bien sûr pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes. Et on va parler bien sûr de la venue du pape Léon XIV à Lourdes.
Voilà, le sujet de l'agitation en ce moment à Lourdes. Ben oui, parce qu'il faut bien s'y préparer. Dimanche 27 septembre 2026, Léon XIV à Lourdes. C'est incroyable.
Voilà, et je pense que comme vous êtes chargé, bien sûr, et pas que de la communication, mais de la communication entre autres, je pense que le téléphone doit sonner.
Oui, on attend plus de 1000 journalistes. D'accord. Pour cette journée-là. Donc autant dire que le téléphone sonne.
Allez, juste après, on ira à Tarbes, puisque j'ai été à la Bourse militaire, qui était devant le 35e. Ils étaient déjà venus nous voir pour parler d'une amicale. Mais cette amicale s'est retrouvée à travers une belle bourse. J'étais sur place et on parlera donc avec les organisateurs et on verra que cette bourse est devenue presque un musée à ciel ouvert. Vous l'entendrez dans le témoignage. Et puis c'est quelqu'un qu'on aime bien sûr ici à Radio Présence, c'est le père Charles Formery qui sera l'invité de Mathias Terrier dans Deux Passages à Lourdes. Il est chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, puis il nous dira voilà comment sa vie, comment il est arrivé à Lourdes, donc comme chapelain dans son témoignage. Allez, pour l'heure, on fait un point sur l'actualité et on retrouve...
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est attendu aujourd'hui à Toulouse pour inaugurer la nouvelle ligne d'assemblage des A321 d'Airbus et visiter plusieurs entreprises de la filière aéronautique. Les inscriptions au transport scolaire LIO ouvrent aujourd'hui en Occitanie. Les familles ont jusqu'au 31 juillet prochain pour effectuer leur démarche. Thomas Fantini devient le nouveau président du MEDEF Haute-Garonne avec la volonté de renforcer l'accompagnement des entreprises du territoire. Dans les Pyrénées, une association s'oppose à un projet d'arrêté concernant les ours qu'elle juge dangereux pour les femelles et les petits. En Aveyron, la 13e demi-brigade de Légion étrangère fête ses 10 ans sur le site de Larzac en ouvrant exceptionnellement ses portes au public. Pour finir en sport, Trentelle s'est inclinée en finale de la Coupe de France de rugby à 13 amateurs face aux Catalans de Toulouse, laissant s'envoler l'espoir d'un doublé.
Allez, un grand merci à Sacha Baudet-Pouplier de l'école de journalisme de Toulouse, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure à 12h30 pour le journal complet. Alors nous, on est avec vous David Torchala pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, mais vous êtes accompagné aujourd'hui de deux stagiaires.
Eh bien oui, c'est les stages de seconde qui ont démarré. Alors je suis avec Stella. Bonjour Stella.
Bonjour.
Et puis je suis aussi avec Martin.
Bonjour.
Alors voilà, Martin, il l'a fait mieux que Stella, parce que Stella n'a pas assez parlé dans le micro, mais c'est ça le stage. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est très chouette, en tout cas, cette antenne, ouais, d'entendre à la fois les étudiants de l'école de journalisme du côté de Toulouse, et puis avoir aussi des jeunes ici en formation, en stage, dans notre radio.
Mais bien sûr, ça fait du bien cette jeunesse, et puis ça nous bouscule un petit peu, donc c'est bien aussi qu'ils viennent nous voir, et soyez les bienvenus pour ce stage de 15 jours. Alors quelqu'un qui sera bien sûr la bienvenue et qui est attendu, c'est le pape Léon XIV qui est prévu donc fin septembre à Lourdes.
Et oui, ça y est, enfin, la confirmation est déjà tombée il y a quelques jours, et donc on a envie de dire enfin le soulagement d'avoir cette date du 27 septembre 2026, un grand et beau dimanche avec Léon XIV à Lourdes. C'est vrai que c'est un peu l'effervescence, vous voyez, j'ai failli arriver en retard parce que, évidemment, pour les équipes du sanctuaire, c'est une immense charge de travail. Alors certes, il y a une chose qui est formidable, c'est d'avoir l'expérience, j'ai envie de dire, récente d'accueillir des voyages apostoliques des deux souverains pontifes, à la fois de Saint Jean-Paul II en 2004, en 2008, même si Saint Jean-Paul II était également venu en 83, mais là, pour le coup, je n'y étais pas. mais d'être vraiment aussi, faisant partie aussi des anciens qui ont accueilli Jean-Paul II en 2004, Benoît XVI en 2008, ben, permet d'avoir également des réflexes, permet par exemple de déterminer le lieu de la messe. Vous savez que la messe du dimanche 27 septembre se tiendra sur la prairie du sanctuaire avec un magnifique podium qui sera créé pour l'occasion. Et bien ça, là, ça, vous voyez, c'est l'enseignement de 2008, de savoir où placer le podium pour accueillir la foule. De toute façon, je vais vous dire, il n'y a pas d'autre moyen. Ils étaient 150 000 pèlerins à venir en 2008 pour voir Benoît XVI à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions. Quand on regarde des images de l'Espagne, ce voyage incroyable qu'a vécu le pape Léon XIV en Espagne, vraiment avec 1 200 000 personnes dans les rues de Madrid, 600 000 personnes dans le stade du Real Madrid, etc., ben montre l'intérêt qu'ont les Espagnols pour Léon XIV, et très certainement les Français auront le même intérêt. Alors évidemment, le pape François ne vient pas qu'en France, il vient d'abord...
Qu'à Lourdes.
Merci Philippe. Il vient en France et donc avec des grands temps parisiens qui se préparent et qui se travaillent en ce moment. Mais voilà, c'est en tout cas nous dire bon, ils étaient 150 000 en 2008, mais ils seront certainement plus nombreux. Alors, de la place au sanctuaire, il y en a toujours. Au total, ce sont 250 000 personnes que nous pouvons faire entrer dans les murs du sanctuaire. Le sanctuaire fait plus de 50 hectares, c'est dire qu'il y a de la place en plein air. Et donc, voilà, il faut se préparer. En 2008, nous avions posé 12 kilomètres de barrières. 12 kilomètres, c'est pas rien, de manière à former des petits carrés pour que les pèlerins puissent attendre, voir passer le pape et participer aux célébrations, parce que vous doutez bien que l'accueil des foules, les flux doivent répondre à certaines normes de sécurité. Et puis pour notre part, aussi pour Radio Présence, eh bien l'idée c'est d'être là avec les médias. Donc il va nous falloir créer un centre de médias uniquement pour l'occasion. Donc pour ceux qui connaissent Lourdes, eh bien l'ancien cinéma, la salle polyvalente de la forêt, là tout au fond de la prairie du sanctuaire, va être transformée donc en centre médias pour accueillir plus de 1000 journalistes qui viennent vraiment à la fois de toutes les rédactions françaises mais également internationales. Vous le savez, les liens qu'entretient Lourdes avec les médias internationaux sont importants, et puis voilà encore des occasions de renforcer ces partenariats forts avec des besoins de retransmission, de prendre les directs, monter des plateaux, etc. Il y a plein de demandes qui nous arrivent.
Ouais, les images seront bien sûr belles. On imaginait que David, quand les gens ont posé leur pèlerinage fin septembre, ce week-end-là, peut-être il y a un an ou deux ans, ils n'imaginaient pas qu'ils allaient se retrouver avec le pape. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont en pèlerinage ce jour-là? Rien ne change pour eux ou tout change?
Ben, j'ai envie de dire, ils ont fait une bonne pioche. Finalement, leur séjour formidable, ils auront le pape qui viendra avec eux. L'idée étant que chacun puisse continuer le pèlerinage comme il l'a fait. Il n'y a pas d'annulation de pèlerinage. Les pèlerins malades qui étaient prévus venir pour le 27 septembre seront toujours là, et il y a même encore de la place pour les pèlerinages qui souhaitent aussi venir de manière un peu plus nombreuse. Vraiment, je peux pas dire au nom du pape, mais en tout cas avec toutes les participants de ce voyage, ben c'est s'inscrire dans la vie d'un sanctuaire. Alors évidemment qu'il y aura des restrictions d'accès, etc. Donc la journée du dimanche 27, ben elle sera un petit peu différente, hein, donc mais tout le monde pourra en tout cas participer à la messe, mais tous les pèlerinages prévus seront là. On notera la présence du pèlerinage national italien conduit par l'Unità aussi, ils sont plus de 6000. Il y aura des pèlerinages aussi de Madrid, des pèlerinages aussi d'Allemagne, ou nombreux pèlerinages français. Mais voilà, on attend évidemment tout le monde. Tout le monde a bien sa chambre comme il l'a réservée. Et c'est important, mais merci de poser cette question-là, parce que c'est important de le dire. Les malades ont toute l'année la première place à Lourdes. Ils auront toujours la première place devant les grandes célébrations du pape. Ça, c'est Monseigneur Jean-Marc Mika, l'évêque de Tarbes-Lourdes, qui le dit. Tout comme aussi les gens du coin, les gens du diocèse, etc., auront également une bonne place pour voir le pape. Voilà. Et c'est vraiment dans cet esprit que se construit et se prépare cette visite.
Et c'est bien sûr une grande fête. Le programme détaillé, on l'aura bien sûr d'ici quelques jours, hein, ce qu'il fera à Lourdes, heure par heure, quelque part, quoi.
Oui, il va falloir être un peu patient même, hein, parce qu'au regard de la communication du programme avec l'Espagne, c'est formidable, hein, d'avoir juste le voyage en Espagne qui se termine, et donc ça nous a permis aussi, alors, à la fois d'envoyer une délégation de Lourdes là-bas pour voir un peu les coulisses de l'organisation, mais ça nous permet aussi de voir aussi les agendas, en tout cas le calendrier de préparation, et donc vraisemblablement à la fin juillet, on aura un programme communicable parfaitement ficelé, mais ce n'est pas un scoop de vous dire que le pape ira à la grotte. Ça sera en tout cas une magnifique séquence, et ça nous replonge évidemment dans ces images de Jean-Paul II, de Benoît XVI, dans une prière personnelle extrêmement silencieuse quand vous avez des centaines de milliers de personnes et que le temps s'arrête, qu'il n'y a plus de bruit, parce que le pape se recueille personnellement à la grotte. On ne peut que essayer de s'imaginer ce qu'ils peuvent se dire, et en tout cas quelle peut être la prière d'un pape, et puis en tout cas à notre tour aussi de prier pour le pape et avec le pape pour le monde qui a tant besoin de paix.
Exactement. Et puis la petite photo, moi, qui m'a fait sourire ce week-end sur les réseaux sociaux, c'est le recteur avec l'évêque dans une petite voiture blanche. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. C'est le père Michel Debrenne qui l'a publié, et il disait que c'était les préparatifs du pape. Hein. Donc voilà, des images qui commencent un petit peu à se faire voir. Et donc c'est plutôt bien. Merci David de nous dire un peu dans les coulisses de préparation. Je sais que vous êtes très pris, beaucoup de réunions. Beaucoup de choses à mettre en place, quoi, puisque il y aura, vous l'avez dit, des barrières, ne serait-ce que il faut louer des barrières, et il va y avoir toute l'infrastructure, il va falloir louer des WC, il va falloir le son, l'éclairage, le podium,
exactement, les retransmissions,
la sécurité,
exactement, mais tout sera prêt, évidemment, là tout se met en place, et puis tout va se dérouler pendant l'été, mais c'est vrai que je manquerai pas de vous donner quelques nouvelles du front parce que c'est quand même pas une mince affaire.
Non, c'est pas une mince affaire. Et puis après, vous nous raconterez les coulisses une fois que ça sera passé. J'espère bien.
Le rendez-vous est pris.
Allez, l'anecdote est prise. Eh bien, merci à nous deux. Ils ont été très sages.
Ils ont été très sages, Martin et Stella. Voilà, du coup, c'est bien. J'ai un public aujourd'hui. Bon, regarde, puis ils sont sympas, ils sourient. Mais j'aimerais bien qu'on les ait à l'antenne lundi prochain. Est-ce qu'on leur donnerait pas rendez-vous lundi prochain?
Eh bien, on va leur donner un peu de travail. Moi, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, vous allez voir un petit peu les pèlerins de Lourdes et que vous allez faire un micro-trottoir. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux?
Oui, ce serait trop bien.
Ce serait trop bien. Et puis vous nous ferez vivre un peu ce qui se passe dans le sanctuaire.
Martin, tu es prêt pour ça?
Ça marche.
Parfait. Alors, rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine avec vos reportages.
À la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Merci David. À la semaine prochaine.
À Catus, 92.5. Je t'aime.
attends, tu vas voir. L'amour, c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Je t'aime.
Tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi si mes mots te blessent. C'est pas ta faute, mes blessures sont d'hier.
Radio Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Philippe Bourri, nous sommes ici à la Courte Boule, en face du 35 RAP, ce régiment qui se trouve à Tarbes. Et c'est votre première édition de cette bourse, bourse un peu particulière.
Alors la bourse Militaria est un vide-grenier organisé par l'amicale du 35e RAP et de l'artillerie parachutiste. Donc nous sommes faisant partie du 35e RAP de Tarbes et on est là pour... au profit des BSC de l'armée de terre, pour essayer d'avoir des bénéfices qui vont nous permettre de reverser au régiment pour aider les familles des blessés et des défunts potentiels.
Et des défunts potentiels. Alors ici, il y a quelques exposants. C'est une première, donc effectivement, c'est un peu l'inconnu. Vous êtes content quand même du bilan des exposants?
Alors pour une première, nous sommes assez satisfaits puisque nous avons réuni 12 exposants. On en attendait moins et ce matin à l'inscription, on en a eu 2 de plus. Ces exposants sont variés. Bien sûr, tout ce qu'ils vendent ça a trait au monde militaire, mais ils disent tous qu'ils sont satisfaits. Il y a du public. Le public est présent, a répondu présent avec les différentes sollicitudes que l'on a pu faire par les journaux, par la radio, Radio Présence, merci. Et on espère que cet après-midi, malgré la chaleur, qu'on ait encore plus de monde.
Alors vous avez mobilisé votre petit groupe, votre association. Quelques noms pour le président, le trésorier, vous êtes le responsable de la communication. Présentez-nous un peu le staff.
Oui, voilà, donc comme je vous ai déjà dit, on a un staff qui est le bureau, mais on a un conseil d'administration. Et donc là, pour cette organisation, on s'est appuyé sur le conseil d'administration, donc avec notre trésorier adjoint, monsieur Hervé Olivier, notre chef de la boutique, Daniel Capoferri, notre responsable histoire, Patrick Thomassin, Bernard Signat qui s'occupe lui du stand pour vendre les effets militaires qui nous ont été prêtés, enfin donnés par nos amicalistes et ainsi que nos partenaires. Voilà, un gros staff, mais il faut du monde pour organiser.
Et oui. Et donc c'est une première, en espérant que, voilà, mais comme toute première, il y a des choses qui marchent bien, d'autres un petit peu moins bien, mais qu'on regarde, on voit et on pourra faire mieux la prochaine fois.
Voilà, déjà, on essaiera de faire évoluer. On a quelques points négatifs, mais qui ne sont pas nombreux. On fera surtout évoluer peut-être avec la présence d'armes sur le site. C'est une autorisation préfectorale qu'il faudra obtenir. Et orienter peut-être un peu plus la communication sur la présence des exposants. Voilà. La communication au niveau de Tarbes concernant le public a été un peu restreinte. C'est-à-dire que bon, on retrouve dans l'agenda de la République, de la semaine. Mais bon, j'aurais bien aimé apprécier l'amicale qu'on ait un article pour mettre en avant notre action.
Bon, on essaiera de faire que vous ayez ça pour l'année prochaine. On va trouver pour des exposants. Alors, effectivement, il y a encore un public qui aime ce genre de... Qu'est-ce qui se vend le plus ? Peut-être les uniformes, les insignes. Qu'est-ce que les gens ils aiment bien ?
En fait, on s'aperçoit que les uniformes, c'est surtout le treillis de combat, les chemises, des petites choses comme ça. Mais après, on a des collectionneurs. J'ai trouvé sur le site des collectionneurs qui sont venus acheter des casques, des brelages en cuir, peut-être la nostalgie ou pour une réutilisation, des musettes, des sacs à dos, des rangers, voilà. Donc on trouve parmi les visiteurs de tout, du badaud, mais qui va peut-être trouver l'insigne de son ancien régiment, parce qu'il n'y a pas que des régiments de la région. Et puis l'autre qui va trouver l'appel US pour mettre dans sa voiture lorsqu'il y a de la neige, par exemple.
Voilà. Oui, plein de petits gadgets que l'armée...
Que l'armée n'utilise plus, mais on a aussi un exposant qui est spécialisé dans la maquette. Donc on va trouver des maquettes d'avions, de véhicules à construire ou à garder en souvenir.
C'est aussi un dévore de mémoire. Je vois que vous avez des anciens ouvrages sur un de vos stands. Vous avez effectivement du treillis. On voit ici, les auditeurs ne le verront pas, mais on voit des anciennes des gourdes. C'est aussi un devoir de mémoire.
Oui, disons que ce sont des ustensiles qui vont faire partie de l'Antiquité, mais qui sont toujours en vie, qui permettent de se souvenir qu'il y a eu une guerre de 39-45, parce qu'on trouve des uniformes de cette période-là, même plus anciens. J'ai vu un pantalon de la guerre de 14, qui a été traité en timite, qui est tout neuf, mais on trouve des gourdes, on trouve des bérets de toute unité, voilà. Et ceci, tout ça, tout se vend. C'est comme un vide-grenier, tout se vend. Ouais. Tout se vend parce qu'il y a un acheteur potentiel pour quelqu'un qui a besoin ou qui a envie de garder ou qui veut se faire plaisir.
Alors, on voit avec vous et tous les anciens, là, vous êtes une belle famille. Quand on vous voit, vous êtes quand même heureux de vous retrouver, on le sent.
On est très heureux de se retrouver et puis se retrouver en dehors du bureau ou de la salle de réunion, se retrouver sur le terrain. Bon, ben, ça nous rappelle un petit peu notre mission principale qui était d'être militaire, puisque nous sommes tous retraités maintenant. Mais ce matin à 6h30, quand on s'est retrouvés, bon, ben, tout le monde était content et il y en a un qui a dit « Ah ben tiens, on part en mission !»
Ah oui.
Voilà. Donc il y a une forme de d'humour et de bien-être entre nous.
Et devant le 35e, ça, c'est aussi quelque chose.
Ah, devant le 35e, c'est la place, elle est faite pour faire ce genre d'activité. Devant le 35e, on est appuyé par le régiment pour cette organisation. Voilà, ils nous ont prêté du matériel, des tables, des chaises, des extincteurs, toute leur partie organisation que l'amicale n'a pas. Mais nous sommes devant le régiment, nous ne sommes pas loin et bon, on a franchi la porte plusieurs fois déjà ce matin.
Hein. Ouais. Eh bien écoutez, on vous souhaite une très belle journée. On aura peut-être l'occasion de se retrouver pour le bilan et puis peut-être pour la deuxième édition l'année prochaine.
Très certainement, on va voir si la date nous convient ou si on la bouscule un petit peu sur un week-end simple au lieu de prendre un week-end de 3 jours. Voilà, on fera évoluer. La météo étant bien sûr essentielle, mais la météo ne la gère pas.
Eh oui, ça on la gère pas quand on pose une date des mois ou des semaines avant. Mais arrivera ce qui arrivera. Surtout quand c'est un événement extérieur.
Tout à fait. Et puis on veut rester à l'extérieur parce que c'est quand même plus convivial.
Très belle journée à vous. Merci Philippe Maury.
Merci Philippe. On se comprend, on se console.
Vous avez reconnu Fabien Thibault, les uns contre les autres sur Présence.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Et à la mi-journée, on va retrouver Sacha Baudet-Poupillier de l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse qui nous présente l'actualité donc, de notre belle région. Bonjour Sacha.
Bonjour à tous. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est attendu aujourd'hui à Toulouse pour une visite placée sous le signe de l'industrie aéronautique. Il inaugurera la deuxième ligne d'assemblage final des A321 sur le site Jean-Luc Lagardère d'Airbus. Une installation aménagée sur les anciens espaces de l'A380. Cette nouvelle ligne doit permettre aux constructeurs d'augmenter sa production afin de répondre à la forte demande mondiale sur les avions. Au cours de la journée, le ministre visitera également les entreprises Oro Aero, Liber et Satis, trois acteurs majeurs de la filière aéronautique à Toulouse. Autre information pratique cette fois-ci, les inscriptions au transport scolaire LIO pour la rentrée 2026-2027 ouvrent aujourd'hui et ils se poursuivent jusqu'au 31 juillet prochain. Ce service gratuit pour les élèves qui remplissent les conditions d'attribution concerne plus de 160 000 jeunes en Occitanie. La région invite les familles à privilégier les démarches en ligne afin d'éviter une majoration de 25 euros appliquée en cas d'inscription tardive. En Haute-Garonne, le MEDEF change de président. Thomas Fantini, entrepreneur toulousain et dirigeant du groupe Maison Pergot, succède à Pierre-Olivier Nau pour un mandat de 3 ans. Le nouveau président entend placer sous le signe d'un MEDEF offensif, utile et, je cite, influent, avec pour priorité de fédérer, accompagner et représenter les entreprises du département. Dans les Pyrénées, le dossier de l'ours continue encore de faire débat. Une association de défense de la faune s'oppose à un projet d'arrêté qui faciliterait les opérations d'effarouchement des ours. Selon elle, ces interventions pourraient provoquer la séparation des mères et de leurs oursons dans des situations de panique, ce qui est très dangereux. Le texte est actuellement soumis à consultation dans le département. En Aveyron, la 13e brigade de Légion étrangère célèbre les 10 ans de son installation sur le camp du Larzac. À cette occasion, le régiment ouvre exceptionnellement ses portes au public aujourd'hui avec des démonstrations militaires, des animations ou encore des rencontres avec les légionnaires. Pour finir en sport, Trentels échoue de peu dans sa quête du doublé. Le club Lot-et-Garonnais s'est incliné en finale de France de rugby à 13 amateurs face aux Catalans de Toulouse. Rapidement réduit à 12 joueurs, les Trentonnois n'ont pas réussi à renverser la rencontre malgré une belle résistance.
Eh bien, un grand merci à Sacha Baudet-Poupillier de l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse et merci à ses étudiants qui sont avec nous chaque jour pour nous présenter l'actualité. Vous le savez, le retour de l'actualité, ce sera 13h cette fois-ci avec le grand journal de Radio Vatican. Il est chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes depuis maintenant plusieurs mois. Il s'appelle le père Charles Formery et il a décidé de venir dans les plateaux donc de Radio Présence pour l'émission De Passage à Lourdes qui nous est proposée donc par Mathias Théry. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Charles Formery.
Présence De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Théry.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir le père Charles Formery. Bonjour père.
Bonjour Mathias.
Vous êtes chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Merci à votre diocèse de vous avoir envoyé, votre évêque, d'avoir accepté.
Je lui dis merci moi aussi.
De venir 3 ans à Lourdes. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que quand on est chapelain en mission au sein du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. La plupart du temps, on est envoyé, on vient de quelque part, évidemment, on n'est pas incardiné, on n'est pas attaché exclusivement au sanctuaire de Lourdes, mais on vient de quelque part, ce qui est votre cas, vous venez du diocèse de Versailles. Alors nous allons raconter, vous allez, j'espère, nous raconter l'histoire de votre vocation. Pourquoi vous êtes devenu prêtre? Comment vous avez tenu aussi dans cette mission qui n'est pas toujours simple? Nous raconterons cette histoire dans la deuxième partie de cette émission. Mais auparavant, j'avais envie de vous demander comment ça va à Lourdes? Comment vous vivez votre vie de prêtre au sein du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes?
Pour le mieux, je suis ravi. Je rends grâce vraiment de pouvoir être ici. Alors, ce qu'on me demande avant tout, c'est de confesser. Donc, je passe le plus clair de mon temps dans cette chapelle des confessions, voilà, qui est l'ancien hospice. Alors, ça dépend un petit peu des moments de l'année, mais en ce moment, on a beaucoup de jeunes prêtres de Paris qui sont venus nous aider, et puis d'autres diocèses aussi, à confesser. Donc, on n'est pas si pris que cela, mais je dirais que on nous demande de nous tenir environ 3 heures par jour au confessionnal. Voilà, on peut après y aller tant qu'on veut. On me demande aussi, pour ma joie, de faire quelques conférences. Donc, c'est à la demande des diocèses. Donc sur différents thèmes, ça peut être voilà, la personnalité de Bernadette, qu'est-ce qu'un miracle, des choses comme ça. Voilà, donc à ce moment-là, je me rends disponible pour une heure et je suis ravi de pouvoir faire ça. Et puis il y a aussi quelques congrégations religieuses alentour qui me font venir et je peux faire un peu de cathé et j'en suis ravi. Donc voilà, mon travail c'est les confessions, l'enseignement et puis bien sûr la messe. Dans les chapelles du sanctuaire, dans les églises du sanctuaire, mais aussi dans les communautés cloîtrées féminines environnantes, donc le Carmel, la Chartreuse de Saint-Pé, de Bigorre, et la Visitation surtout. Et voilà.
Ce sacrement de la confession a une résonance un peu particulière à Lourdes, du fait même du message de Lourdes. Qui, on n'en parle peut-être pas assez souvent, est un message de pénitence. Ce mot, d'ailleurs aujourd'hui, peut-être reçu, peut-être de façon inexacte.
Oui, la Vierge Marie dit, à partir du 24 février, si je ne me trompe pas, pénitence, quoi, son message est scandé par cela. Et Bernadette va pratiquer cette pénitence que Marie nous enjoint de faire. Donc le 25 février surtout, donc vous savez, c'est là qu'elle découvre l'eau par laquelle beaucoup de malades vont guérir. Donc elle va vers le fond de la grotte, gratigne, c'est un verbe de Bernadette, ça gratigne le sol, au moment où à l'endroit où il touche le...
Ça c'est boueux à ce moment-là.
Où il touche le rocher. Oui, c'est... Ah je sais pas trop, mais en tout cas elle est obligée de gratter. Donc il devait y avoir une certaine dureté. Et une flaque apparaît, et puis elle en boit, devant s'y reprendre à 4 fois, tellement cette eau est dégoûtante. Elle est rougeâtre, d'après Laurentin. Et puis elle s'embarbouille le visage, et puis elle embrasse le sol. Elle mange de l'herbe qui est là, et ensuite quand elle revient, elle dit « cela », parce que c'est comme ça qu'elle appelait la Sainte Vierge, elle ne savait pas que c'était la Sainte Vierge, encore qu'il lui apparaissait. Elle ne le saura qu'un mois plus tard. « Cela m'a demandé d'aller boire à la source et de m'y laver ». Et d'embrasser le sol et de manger de l'herbe par amour pour les pêcheurs et pour leur conversion. Et donc voilà, elle fait, pardon, je ne sais pas si je réponds à votre question.
Et Père Charles, en fait, cette apparition-là, elle est à ce moment-là même pas du tout consensuelle, enfin, même scandaleuse. Les gens, ils s'offusquent, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette petite souffreteuse qui se...
Alors elle passe
la
pour
sur le village, du visage qui mange de l'herbe.
Oui. Alors c'est, on va mettre du temps à comprendre ce qui se passe. Effectivement, ce jour-là, elle n'apparaît pas glorieuse parce qu'avant, jusqu'au 24 février, la gloire de Dieu rayonnait sur son visage et donc elle voyait la Sainte Vierge. Mais les gens, eux, avaient aussi une apparition, bénéficiaient d'une apparition qui était celle de la gloire de Dieu dont rayonnait le visage de Bernadette. Et cette fois, le 25 février, Bernadette apparaît comme le serviteur souffrant du livre d'Isaïe, sans beauté ni éclat. Et beaucoup de sceptiques sont venus ce jour-là, il y a 500 personnes environ, beaucoup de sceptiques sont venus, vont être confortés dans leurs doutes, vont repartir très contents de ce qu'ils ont pu voir. Et Bernadette revient vers la foule, donc toute maculée de boue, quoi, elle doit avoir des filets de boue, je sais pas trop. Et sa tante et marraine Bernarde lui donne une gifle, et un mouchoir pour qu'elle se débarbouille. Donc on va mettre du temps à comprendre pourquoi est-ce que l'humiliation de Bernadette a-t-elle pu procurer la conversion des pécheurs. Alors je pense que c'est tout simplement pour cette raison, quand on s'humilie, on capte la grâce de Dieu, selon les paroles du Magnificat, voyez. Il s'est penché sur son humble servante, il s'est penché même sur l'humilité de sa servante, littéralement. Donc cette humilité de Bernadette attire la grâce sur elle, et dans le mystère de la communion des saints, cette grâce va vers les pécheurs, vers les pauvres pécheurs dont elle fait partie, dont on fait tous partie. Donc elle fait un trajet, vous voyez, d'abord vertical, et puis horizontal dans le mystère de la communion des saints. Donc quand on prend la grâce, vous voyez, en s'humiliant, eh bien, elle ne se contente pas de nous habiter, cette grâce, mais elle se répand autour de nous. Et donc, voilà pourquoi la pénitence de Bernadette porte un fruit.
Et donc les gens qui arrivent ici, les pèlerins, ont une recherche de consolation, arrivent avec aussi leurs bosses, leurs blessures, leurs doutes.
Oui,
vous les voyez arriver à la chapelle.
Complètement, oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, tous ne sont pas chrétiens, tous ne sont pas baptisés. En fait, il y a des malades partout sur Terre, et donc chacun tente sa chance à Lourdes, vient trouver un réconfort près de Marie, près de Myriam, et donc on s'attache à les accueillir bien. Voilà, on essaie de faire comme fait Marie, de leur faire connaître un petit peu cette tendresse de Dieu qu'est Marie.
Ce qui peut faire sortir de la désespérance, du désespoir, c'est se sentir aimé. Infiniment.
Bien sûr, oui, bien sûr.
C'est ce qui est ressenti, non, d'une façon ou d'une autre.
Bien sûr, c'est ce que cherche le malade avant tout. Et d'ailleurs, c'est comme le disent nombre de médecins gériatres, celui qui souffre considérablement veut bien encore souffrir un peu du moment qu'il sent de l'amour par un côté. Il est prêt à ne pas vouloir mourir tout de suite si par une infirmière, par un membre de sa famille, il reçoit un petit peu d'affection. Parce que c'est l'amour qui guérit tout. Et donc cela, on le constate. Et c'est une joie de pouvoir essayer d'être bon. Voilà, on essaye.
Père Charles, on ne va pas entrer, bien sûr, dans les questions de secret de confession, pas du tout. Mais ça veut dire que pour le prêtre que vous êtes, il faut être infiniment délicat quand même dans la façon de recevoir.
Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr.
D'écouter, mm-hmm. d'accompagner... Et puis délivrer le sacrement.
Oui. Alors, cette délicatesse, elle nous vient de l'Esprit-Saint, dont la Vierge Marie est épouse. Et je me souviens d'un vieux prêtre, quand j'ai confessé peu de temps après mon ordination ici à Lourdes, j'avais rencontré un vieux prêtre qui m'avait dit que avant chaque session de confession, il passait à la grotte dire « Je vous salue Marie ». Voilà. C'est quelque chose que j'essaie de faire, de prier un « Je vous salue Marie » à chaque fois, juste avant d'exercer ce ministère. Marie, l'épouse de l'Esprit-Saint, me donne cette tendresse pour les pécheurs, voilà, dont je fais partie. Et j'aime bien dire que il ne faut pas avoir peur de se confesser. Plus que vous direz en confession est gros et bizarre... Plus le prêtre admirera votre humilité. Alors c'est pas pour ça qu'il faut faire des gros péchés, bien sûr, mais il faut savoir cela. Voilà, c'est le seul sentiment qui habite le cœur d'un prêtre un minimum proche du Christ, c'est celui de l'admiration devant l'humilité de celui qui s'accuse. Et bien sûr, il y a aussi ce sentiment de la joie de pouvoir enlever le carcan du péché qui pèse sur les épaules, qui pèse sur nos épaules, voilà.
Le message de Lourdes, c'est certes l'apparition du 25 février, mais c'est également celle du 25 mars. C'est ça aussi le message de Lourdes.
Oui.
Cette promesse incroyable, l'Immaculée Conception.
Oui. Oui, alors Marie, ce jour-là, va, à la demande de Bernadette, va décliner son identité d'Immaculée Conception. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle le fait en le jour de l'Annonciation, où l'on entend à la messe l'évangile de l'Annonciation, donc Gabriel qui dit « Je vous salue, non pas Marie, mais je vous salue pleine de grâce », comme s'il lui décernait une autre identité qui est celle-ci, donc pleine de grâce, puisque pleine de grâce remplace le prénom de Marie. C'est nous qui l'ajoutons dans Je vous salue Marie, mais sinon dans l'évangile selon Saint Luc, l'archange Gabriel dit bien Je vous salue, pleine de grâce. Donc, Marie va dire Je suis l'Immaculée Conception, en le jour où l'ange Gabriel lui décerne une autre identité qui est celle de pleine de grâce. Et donc ces deux identités arrivent en confluence, sont en équivalence, et on comprend que Marie est donc immaculée sans tache parce qu'elle est pleine de grâce, parce qu'elle est graciée. En fait, elle n'y peut rien. Sinon, elle est comme nous, elle est nulle. Alors, elle est sauvée, elle est remplie. Depuis le départ, elle n'est pas marquée par le péché originel, par cet état de défiance vis-à-vis de Dieu, dont on hérite tous de nos premiers parents. Elle n'est pas marquée par cela. Elle est sauvée depuis le départ, mais elle est sauvée tout comme nous. Et donc, on n'a pas lieu de la craindre.
Et donc, c'est une promesse qui nous est faite, quelque part.
C'est une promesse qui nous est faite. D'abord, Marie nous dit « N'ayez pas peur de moi. J'ai beau être l'Immaculée Conception, je le suis par grâce. Donc, je suis aussi nul que vous, je ne vaux pas mieux que vous. » Voilà. Dans les litanies de Lorette, vous savez, elle est honorée trois fois comme vase, comme réceptacle de la grâce. Et bien sûr, c'est une promesse qui nous est faite. On est invité à se constituer aussi réceptacle. Et c'est saint Paul qui nous dit cela dans ses lettres. Cette fois, il parle du peuple chrétien comme d'un vase pour la grâce. Voilà.
En vous écoutant, Père Charles, on ne peut pas s'empêcher de voir combien le message de Lourdes consonne ou est dans l'Évangile, totalement ancré dans l'Évangile.
Oui.
C'est une chance pour la mission.
Oui.
Que d'avoir dans sa besace le message de Lourdes.
Ah, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai que toute apparition renvoie à l'Évangile. À chaque fois que je parle d'une apparition en particulier, je crochète l'Évangile et j'en profite pour annoncer Jésus, ça c'est certain. Oui, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de...
Allez-y,
Donc... À la 9e apparition, donc le 25 février, Bernadette va se mouiller, va boire une eau rougeâtre, qui nous fait penser bien sûr au flux d'eau et de sang qui jaillit du côté du Christ. Et cette eau rougeâtre, elle la trouve dans le creux du rocher. On se souvient de Moïse, vous savez, qui frappait le rocher pour abreuver le peuple hébreu. Et saint Paul dira que ce rocher, c'est le Christ. En 1 Corinthiens 10, il dit « Ce rocher que Moïse frappait, c'est le Christ ». Et donc, Bernadette creuse le Christ, creuse le rocher, creuse le Christ, et obtient ce flux d'eau et de sang dont elle s'abreuve dans le but du réconfort des pauvres pécheurs. Donc on a évidemment tout ce parterre biblique qui est derrière cette apparition-là, par exemple, et qu'il faut crocheter, qu'il faut inviter dans la conversation quand on parle... de cette apparition et puis des autres.
Donc on voit bien là qu'on est loin d'épuiser le sujet avec vous au cours de cette émission. Je vous propose de marquer une pause. Nous nous retrouvons juste après avec vous, Père Charles Formery, pour continuer à dialoguer. Si vous le voulez bien, vous nous parlerez de votre vie de prêtre, alors à Lourdes comme chapelain, mais avant, vous étiez dans le diocèse de Versailles, en paroisse, et puis peut-être quelques mots sur votre vocation.
Très bien, avec joie.
À tout de suite.
Présence à Auch 89.6.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Nous avons la chance aujourd'hui d'entendre le témoignage du Père Charles Formery. Père, vous venez du diocèse de Versailles et vous êtes, pour quelques années, chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 3 ans exactement, peut-être plus, mais on verra, ça ne nous appartient pas, ça ne
j'aimerais
vous
bien,
appartient
j'aimerais
pas.
J'aimerais bien.
Alors, vous avez, avant de venir comme chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, œuvré en paroisse. Vous êtes issu, je l'ai dit, du diocèse de Versailles. On pourrait dire que vous avez été un prêtre vicaire en paroisse, tout simplement, depuis votre ordination en 2008.
Oui, c'est ça, oui. J'étais tout le temps vicaire, c'est-à-dire aide du curé. Alors, j'étais en paroisse tout d'abord à Poissy, et puis ensuite au Chênay, qui est une ville au nord de Versailles. Poissy étant au nord-ouest de Versailles, voilà, c'est là que Saint-Louis était baptisé, on a toujours son baptistère. Il signait Louis de Poissy, parce qu'il estimait être né là-bas, et c'était bien le cas. Voilà, donc après Poissy et le Chênay, j'étais à Versailles, dans l'hypercentre, à côté de la mairie de Versailles, dans la paroisse Notre-Dame des Armées.
Nous parlerons évidemment de cette expérience paroissiale de plusieurs années, quasi 17 ans,
16 ans. Non, parce que j'ai été aux études un certain temps après mon ordination, donc j'ai pas calculé, mais 13 ans de paroisse.
13 ans de paroisse, oui. Alors, votre ordination, c'est le 29 juin 2008, et avant d'arriver là, quel chemin ? C'est tout un chemin pour eux. Pour une personne.
Oui bien sûr. Oui.
C'est un choix quand même important, radical, que de dire je veux être prêtre, faire le séminaire. C'est long le séminaire.
C'est long, oui, c'est très long.
Et puis tout renouveler son oui.
Exactement.
Et d'arriver au oui du 29 juin 2008.
Oui, c'est
ça
vrai.
Ça a été un chemin pour vous. Comment vous le voyez aujourd'hui ?
Alors c'est vraiment.
Des joies, des peines, des doutes et quoi ?
Si je le comprends comme. Comme le dit ma vocation, comme l'a dit l'évangile selon saint Marc, vous savez, il appela, il monte, il gravit la montagne, et il appelle à lui ceux qu'il voulait pour qu'ils soient avec lui et pour qu'il les envoie prêcher. Donc la mission des apôtres, c'est d'être avec Jésus. La mission de Jésus, c'est de nous envoyer prêcher. C'est son travail. Notre travail à nous étant d'être avec lui. Et Quand je regarde ma vocation, c'est bien cela qui s'est passé. C'est vraiment un désir d'être avec lui, d'un compagnonnage ad vitam avec lui. Et donc c'est vraiment, j'ai répondu à un désir profond d'être dans la compagnie de Jésus, si vous voulez. Désir que Jésus m'a inspiré.
En fait, c'est à l'adolescence ?
C'est à l'adolescence, ouais, 14 ans. Je reviens juste sur cette affaire de désir. La vocation n'est jamais autre chose qu'un désir que Jésus nous inspire. C'est pas un carcan qui vient tomber sur nos épaules, c'est Jésus qui nous fait désirer ce à quoi il nous appelle. Et c'est pourquoi si on désire pas être prêtre ou religieuse, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Jésus ne nous y appelle pas. Par contre, ce désir peut débarquer d'un moment à l'autre. Mais puisque c'est un désir, il n'y a rien de violent. Et alors, on a le droit de demander au Seigneur de le souffler fort, voilà, pour.
Oui, et puis de le confirmer.
Voilà, c'est ça,
puis,
de le confirmer, oui.
Et donc, vous, 14 ans ?
14 ans, donc j'étais dans une école catho, et à la prière du matin, c'est une prière que le prof qui commençait la journée pouvait faire. Et c'est un prof de maths. C'est une prière qui durait 30 secondes. Et pendant cette prière, l'idée d'être prêtre m'est venue, qui ne m'était jamais venue auparavant. Et avec cette idée, une grande paix, une grande joie qui ne m'ont laissé aucun doute. J'ai eu beaucoup de chance d'être comme flashé, de ne pas avoir à réfléchir. Le désir est arrivé comme ça. Et il était fort et il a duré.
Mais c'est un chemin de certitude ensuite ?
Alors jusqu'à mon entrée au séminaire, oui.
à
19 ans. Et alors après, eh bien, j'étais très heureux, mais j'ai commencé à avoir quelques doutes. Et puis, j'avais du béguin pour une jeune femme. Béguin que je ne lui ai jamais dit, d'ailleurs. Je la voyais de temps en temps. Et je me demandais si j'étais pas plutôt fait pour l'épouser, voilà. Et donc, écoute, j'ai joué le jeu du séminaire sérieusement. Je priais avec joie, tout en me posant la question. Et alors un jour, j'étais confirmé dans mon appel, et voici comment. C'était justement à Lourdes, donc en 2004, donc 4 ans après être entré au séminaire. En 2004, je vais à Lourdes au mois d'août, quand Jean-Paul II y était, en tant que malade de Parkinson. Et je vais à Lourdes, moi, non pas pour le voir, mais pour que Jésus me dise clairement ce qu'il voulait. Alors quand j'arrive à Lourdes, eh bien, il y avait une foule considérable de jeunes, parce que Jean-Paul II attirait les jeunes. Et moi, je me mets dans ma bulle et je fais mon parcours de prière dans l'objectif de plaire à Dieu et qu'il me dise ce qu'il voulait. Donc je me confesse, je me baigne aux piscines, je fais le chemin de croix. Et à la fin du chemin de croix, j'étais encore en haut de la pente, je vois en contrebas de la pente cette jeune femme. Au moment donc où je disais à Jésus, maintenant dis-moi clairement les choses. Et donc je dis merci à Jésus parce qu'il me semblait que son message était très clair. Je la rejoins et on est content de se retrouver. On part à la pizzeria, c'était le soir. Et chemin faisant, elle me dit « Ah, je t'ai pas dit, voilà, je te présente machin. » Donc c'est un gars hyper beau. On va se fiancer, alors je les félicite tous les deux. Puis en aparté, je dis au Christ « J'ai pas compris ton message d'il y a deux minutes, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai pas entendu de voix, mais j'ai compris qu'il me disait clairement « Mon message, c'est plutôt maintenant. elle est prise, si tu veux, tu pourrais être prêtre avec moi, et ce sera bien. Et je me souviens d'avoir répondu oui, courageusement, un petit oui, mais par lequel le Seigneur a pu rentrer, et au moment où j'aurais dû être très triste, j'étais très joyeux, donc surnaturellement. Donc Jésus m'a encore rappelé par le désir, en me faisant désirer ce à quoi il m'appelait. Et donc, 3 ans plus tard, à la veille de mon ordination, j'étais complètement en paix, voilà, désirant être prêtre, et je suis toujours content de l'être. Hein.
Merci beaucoup de vous livrer comme ça, de vous donner des éléments de cette vie, de cette vocation, de cette trajectoire, sachant que pour ceux qui nous entendent, évidemment que ça peut, à un moment, conforter...
Oui,
confirmé.
Oui, j'espère que mon témoignage.
L'un ou l'autre insiste, pose la question à Dieu. Oui.
C'est ça. Donc, pour résumer, je dirais que Jésus, si tu m'appelles, souffle en moi un désir fort de ce à quoi tu m'appelles. Voilà. Mmh. Alors, bien sûr, c'est un désir qui rencontrera d'autres désirs naturels, celui de se marier. Mais il faut que ce désir d'épouser le Christ ou d'épouser l'Église sublime ce désir naturel. Voilà, il faut qu'il soit plus fort, même s'il est tout à fait normal et important d'ailleurs que ce désir naturel soit là. C'est pas parce qu'il est là qu'on doit obligatoirement se marier. Par contre, si le désir de se consacrer souffle plus fort à ce moment-là, bien nous en prend d'y répondre positivement, parce que Jésus nous connaît bien. Voilà.
À grands traits, tout à l'heure, vous nous avez donné les éléments de votre parcours de prêtre, Poissy, Chennai, Versailles. Arrêtons-nous quelques minutes, pour les minutes qui nous restent, sur cette dernière expérience au sein d'une paroisse qui s'appelle Notre-Dame des Armées.
Oui, oui.
J'ai envie de vous poser la question de cette expérience-là à travers peut-être la question de la diversité et de l'unité de l'Église. Il se trouve que vous découvrez quand même une pastorale dans cette paroisse. Oui. Qui encore aujourd'hui vous tient à cœur, et vous êtes peut-être recentré.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est une paroisse qui était dédiée au rite tridentin. Donc, Monseigneur Aumônier a souhaité avoir une chapelle tridentine desservie par ses propres prêtres. Quoi, par les prêtres de son diocèse. On ne peut pas dire que les prêtres lui appartiennent, mais... Pardon, il faudra couper ça, Mathias. Ouais. je peux recommencer. Ouais, une minute en avant. Alors, c'est une paroisse, Notre-Dame des Armées, c'est une paroisse qui est dédiée au rite tridentin. Monseigneur Aumônier avait souhaité avoir une chapelle tridentine desservie par les prêtres de son diocèse, donc par des prêtres diocésains. Donc, il a tapé dans son propre cheptel pour fournir cette paroisse.
Et vous faites partie de ceux qui ont été envoyés.
Et voilà, j'ai fait partie des 3 qui ont été envoyés là. J'en étais très content. Je connaissais cette paroisse, puisque adolescent, je l'avais un peu fréquentée. J'avais mon père Spi qui était là, à l'époque. Et donc, c'est une paroisse où le ministère de prêtre est très unifié, puisque le prêtre se consacre presque uniquement à la messe, aux confessions et au catéchisme. Le caté qu'il fait lui-même, c'est un peu la particularité tradie, on pourrait dire. Et cela m'a beaucoup plu d'enseigner moi-même les enfants. Alors on le faisait un petit peu à outrance, hein, jusqu'à la fatigue, on peut dire. Mais on peut voir que ça portait du fruit, même si je pense que on faisait moins bien que beaucoup de dames catées de la ville. Voilà.
Ce que vous vivez à Lourdes, au fond, est assez pas proche, mais est assez dans la continuité, parce que vous êtes au service de l'enseignement et des sacrements.
C'est ça. Je retrouve exactement la même chose, donc l'enseignement et puis les confessions. Voilà, pour ma plus grande joie, et j'espère pouvoir importer ce système de simplicité dans ma paroisse future. Voilà, je sais pas, c'est peut-être un peu utopique. En tout cas, j'ai pu voir qu'à Notre-Dame des Armées, ça marchait. Voilà, les confessions, l'enseignement, les messes. Alors, bien sûr, on avait d'autres choses. Hein. Il y avait le scoutisme, hein. Il y en avait même beaucoup. Il y avait les équipes Notre-Dame, etc. Mais quand même, tout tournait autour de ces 3 choses. La confession, la messe, le caté. Et je pense que c'est une très bonne chose.
Et vous diriez que dans votre chemin de prêtre, ça vous a recentré vous-même. Ça vous a redit... qui était le cœur de la mission.
Oui, vraiment. Le prêtre, c'est dans le Christ, l'époux de l'Église, et on n'est jamais tant époux qu'en réconciliant l'épouse à l'époux par le sacrement de pénitence. Donc effectivement, ça m'a infiniment conforté dans mon être prêtre.
Sachant qu'un écueil, ce serait de la dispersion, vouloir être partout dans toutes les réunions, s'occuper de tout pour un
oui,
prêtre.
Oui, c'est vrai.
Un chef d'une PME, un chef c'est d'une vrai. Petite entreprise.
C'est vrai que ça peut, c'est quelque chose qui nous guette tous. Alors il faut dire qu'à Versailles, là où j'étais, on avait la chance de pouvoir déléguer en fait toutes ces tâches. Alors mon curé était quand même très chargé par elle, hein, et c'est son rôle évidemment. Hein. Mais on est très aidé. Je ne sais pas si c'est possible de l'être comme on l'a été dans toutes les paroisses, mais voilà, je sais gré à beaucoup de paroissiens de s'être chargé de beaucoup de choses désagréables à notre place.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Père Charles Formerie. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler parce que on sent que ce message de Lourdes, vous avez encore beaucoup à nous en dire.
Mais oui.
Merci pour ce témoignage.
Avec grande joie, cher Mathias, ouais. Avec grande joie.
On se dit à très bientôt.
À très bientôt.
Et puis on sent un prêtre heureux à Lourdes.
Ah oui, vraiment.
Ouais. Donc bon vent et puis.
Sans problème.
Votre joie est communicative. Au revoir.
Merci. Au revoir, Mathias.
Présence
de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
S'il te plaît, je voudrais.
À Saint-Gaudens, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le message du pape pour la prochaine journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées dévoilé.